Alors, vous pouvez tourner dans le psaume 67 ce matin, on va lire ça ensemble. Psaume 67, au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume, on assume étant de David, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Et la terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alors, Seigneur, on est devant toi ce matin, que ta parole vienne déloger le mensonge dans nos vies. Je te demande au nom de Jésus, par ton esprit qui est actif dans nos vies. Amen. Alors, je vous invite ces temps-ci, en fait, c'est une pratique à avoir tout le temps, mais particulièrement en ce début d'année, de chercher le filon. De rechercher le filon de Dieu au travers les prédications, à travers vos lectures, à travers vos temps de prière, à travers vos discussions les uns avec les autres. De chercher le filon de Dieu. Parce que les choses, les messages qu'on entend, les lectures, les discussions qui se produisent entre nous ne sont pas le fruit du hasard. Dieu est à l'œuvre, Dieu est maître, Dieu est orchestre, ce qui se passe dans son église, dans l'église locale, ici à Fabreville. Alors, je vous invite vraiment à chercher ce filon, à être dans cette attente et vraiment réaliser que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et l'année 2024 ne sera pas laissée au hasard. Ce n'est pas le hasard qui va définir notre année, mais Dieu la tient dans nos mains. Dieu a un plan pour nous comme individus et Dieu a un plan pour nous comme église locale. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'on a un maître et que ce maître n'est pas distant, qu'il est concerné par vous et moi personnellement, mais aussi à l'œuvre et qu'il donne une direction à cette église. L'église, la Bible parle de Fabreville. Donc, cherchons ce filon-là. Et pour ce qui est de la prière, on annonce un mois de prière en février. Quelques commentaires comme ça avant de débuter le message sur le texte. Prévoyons un lieu. Donc, on a fixé ce rendez-vous comme église au mois de février. Mais comme habitude de vie, chacun chez nous, prévoyons un lieu dans la journée et un moment où on s'arrête pour prier. Pasteur Emmanuel nous a parlé que le chrétien va prier sans cesse. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est à l'écoute. Dieu est là, présent, comme on l'a chanté tantôt. Et donc, on peut lui prier, on peut le prier sans cesse, à tout moment, au travers de nos activités. Mais prévoyez aussi un temps, un rendez-vous avec le Seigneur, le matin, le midi, le soir, peu importe. Pas obligé que ce soit 5 fois par jour. OK? Donc, à tout moment, on peut se prévoir de mettre à notre horaire ce temps où on s'arrête, que ce soit 2 minutes, 5 minutes, 45 minutes. Parce que la vie va vite. Et je me le dis à moi, personnellement. La vie va tellement vite. On est bousculé par les événements. Alors, si on n'a pas prévu d'avance qu'on s'arrêtait, la journée est déjà passée. Et puis, ça y est, on est prêt pour une suivante, puis une suivante, puis une suivante. Donc, on a besoin de prévoir ça. On a besoin de prévoir ce moment, ce lieu. Et la prière amène la prière. Aujourd'hui, vous savez, c'est central dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, et pourtant, c'est peut-être ce que font le moins les croyants. Et encore une fois, je me parle à moi-même. Mais la prière, la bonne nouvelle, ne vous découragez pas ce matin, la bonne nouvelle, c'est que la prière engendre la prière. Le fait de prier un peu amène et nourrit notre vie prière. Et notre prière doit être nourrie. Et ce matin, pourquoi je propose le psaume 67, c'est que nos prières doivent être dirigées, doivent être orientées. D'où l'importance de prier la parole. Parce qu'on a cette tendance naturelle d'avoir des vies centrées sur nous. Et donc, nos prières vont être continuellement orientées vers nous. Est-ce que je vais faire connaître mes besoins au Seigneur? Oui. Mais le livre des psaumes est un incontournable pour que notre vie de prière soit orientée et pour que nos horizons s'élargissent. Sinon, on se contente d'une vie centrée sur nous-mêmes. Et nos vies de prière vont être orientées vers nous-mêmes. Mais le Seigneur se plaît à répondre. Il se plaît à répondre, à combler nos besoins. Et vous allez voir pourquoi. Mais c'est parce que Dieu veut me bénir. Oui, mais on va voir. On va voir ce que le psaume 67 va nous dire ce matin. Et cette vie qui est nourrie, qui est orientée par la parole, par les psaumes, va amener une ouverture sur une toute autre dimension de la marche avec Dieu. On a tous soif. Qui, comme chrétien, n'a pas soif de cette intimité? Hein? C'est, même dans nos relations entre nous. Bon, il y a certaines relations qui sont superficielles, puis on ne peut pas être proche de tous. Mais les gens desquels on est le plus proche, il n'y a rien de plus difficile que d'avoir des relations qui demeurent superficielles avec les gens qui nous sont proches. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur nous appelle à développer cette intimité qui passe par la prière. Je n'apprends rien de nouveau ce matin, mais je veux juste rappeler ce point-là. Parce que, pourquoi je parle d'une dimension tout autre qui passe par la prière, c'est que ça nous permet de méditer. Donc, méditer qui est de repasser sa parole. En plus de lui faire connaître nos besoins, de lui amener nos supplications, nos questions, mais c'est aussi le temps de se laisser sonder par Dieu. C'est de s'approprier la parole et puis de voir comment, où je me situe. C'est de lui confier toute ma vie, c'est de déposer à ses pieds ce que je suis, mes projets, mes plans, ma compréhension, ce que j'ai compris de lui. Dans la prière, le Seigneur vient réajuster. Il y a cet échange avec lui. Je suis à l'écoute, mais en même temps, il y a ce dialogue avec lui. Et c'est sûr que ce n'est pas valorisé. Parce que quelle étiquette on met sur la prière en 2024? Quelle étiquette qu'on met, ça n'est pas. Parce que l'étiquette que je vois, c'est n'a pas d'effet, n'a aucun impact. Pour faire avancer les choses. Pas de temps à perdre dans la prière. J'ai rencontré un homme une fois qui disait, moi, j'ai déménagé à Montréal. Okay, c'est un gars de Rivière-du-Loup. Que Dieu bénisse les gens de Rivière-du-Loup. Il dit, moi, j'ai déménagé à Montréal parce que je veux que les choses opèrent. Je vis dans une grande ville, veux que les choses opèrent. Il y avait une business et puis il fallait qu'il aille plus loin, plus loin, plus loin. Donc, on a un peu cette... Bon, je parlais tantôt de mensonge. On a un peu ce mensonge qui colle à nous. On veut que les choses opèrent et on voit un peu la prière des fois comme un obstacle. Mais dans la prière, on va laisser Dieu nous imprégner de sa vision. Dans la prière, on laisse Dieu nous imprégner de sa vision. Alors, le psaume qu'on vient de lire, psaume 67, vous serez d'accord avec moi que c'est un psaume qu'on peut appeler un psaume missionnaire. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un psaume missionnaire? D'abord, au verset 2, David va reprendre un peu la bénédiction d'Aaron qu'on retrouve dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors, cette fameuse bénédiction, de quoi il s'agit? Quand on dit, quand on fait appel à la bénédiction de Dieu, de quoi il s'agit? Bien, si on s'attarde sur ce passage-là, on voit que la bénédiction qui est d'Hébreu Barak comporte une protection, la faveur de Dieu. Donc, que Dieu te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, la faveur, ça nous parle de la faveur de Dieu. sa grâce, son soutien et la paix. Protection, faveur, grâce, soutien et paix. C'est le genre de bénédiction. C'est de cette façon que Dieu nous bénit par sa présence. Et cet aspect de faire briller sa face, on le retrouve à plusieurs endroits dans les psaumes. C'est une expression courante. Juste dans le psaume 80, trois fois, on va retrouver cette expression où ça nous est rappelé qu'on a la faveur de Dieu. Dieu fait luire sa face sur ses enfants. Nous avons, c'est un fait, nous avons sa faveur. Et maintenant, on dirait que David est en train de prier, « Seigneur, comme tu l'as promis, comme tu l'as déclaré, agis envers nous selon la faveur qu'on a de toi, selon ta faveur, selon ta grâce. » Alors, ça nous rappelle en même temps cette prière qu'on dépend de, pour toute chose, on dépend de sa grâce. Et peut-être qu'on devrait repenser à ce que Dieu entend par bénédiction. Et c'est ce que le psaume ici, 67, fait. Il nous amène à repenser un peu de quoi il s'agit quand on dit que Dieu nous bénit. Qu'est-ce qu'on entend quand on souhaite aux gens que Dieu te bénisse? Qu'est-ce qu'on souhaite au fond de nous-mêmes quand on demande au Seigneur de nous bénir? Le psaume 67 va nous amener à repenser, à revoir qu'est-ce que Dieu entend et de voir que sa bénédiction est beaucoup plus large que ce que nous, on entend et que ce que nous, on a saisi et de ce que sont nos attentes. Beaucoup plus large. Alors, et si David n'avait pas été inspiré par l'Esprit de Dieu, je vous garantis qu'il se serait arrêté au verset 2. Seigneur, aie pitié de nous, bénis-nous. Fais luire sur nous ta face. Et s'il n'avait pas été inspiré, ce serait arrêté là. Une prière centrée sur lui-même. Une prière centrée sur nous-mêmes. Seigneur, aie pitié de nous, bénis-nous. Mais la bénédiction n'est pas faite pour être accumulée, comme les talents ne sont pas faits pour être cachés et enterrés. Parce que naturellement, j'ai ce profond sentiment que je suis au centre de l'univers et que je mérite d'être béni. Et comment on peut en sortir de ça? Ça ne s'invente pas. C'est le Seigneur qui le produit au milieu de nous. C'est le Seigneur qui produit cette délivrance. Mais ici, David, au lieu de s'arrêter au verset 2, il va poursuivre. Puis de manière prophétique, il va plus loin que la bénédiction immédiate. Au-delà de son cercle immédiat. Il contemple l'œuvre de Dieu à travers sa vie, à travers son peuple, à travers l'histoire de la rédemption, l'histoire du peuple d'Israël. Il est en train de voir plus loin, il est en train d'observer ce que Dieu... Tantôt, je vous parlais de suivre le filon. David s'arrête et est en train de suivre le filon de Dieu. Il réalise que, wow, la bénédiction dont je jouis aujourd'hui, la faveur dont je jouis va beaucoup plus loin que mon cercle immédiat. Ça me dépasse. Et le Seigneur m'invite à ça. Le Seigneur m'invite à ça. Et il est en train de réaliser l'impact que ça a sur sa vie actuelle, mais sur les siècles à venir et l'éternité à venir. Et cette prière, il l'a fait en étant enraciné dans une promesse qui a été faite. Ce n'est pas une prière qui est comme flottante, comme ça, qui arrive de nulle part, mais c'est une prière qui est ancrée dans une promesse qui a été faite, qu'on trouve dans Genèse 12, verset 2. Promesse faite à Abraham. David sait que Dieu accomplit les promesses qu'il a faites. David a cette conviction que l'œuvre que Dieu est en train de faire le dépasse et qu'il va accomplir ce qu'il a promis. Genèse 12, 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai à ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Tu seras une source de bénédiction. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Bénis-moi, Seigneur. Et Dieu lui répond, je vais te bénir, mais je vais faire de cette bénédiction, je vais faire de toi une source de bénédiction. Bénis pour bénir. Bénis pour devenir source de bénédiction. C'est ce que Dieu a promis à Abraham. Est-ce que c'est ce que David est en train de se rappeler en le priant et en chantant? Ah, c'est un chant. Cantique, avec instrument à cordes. Vous pouvez le chanter à la maison, vous pouvez le prier. Et je vous suggère fortement de prier ce psaume 67. Alors David est en train de réaliser, « OK, wow, Dieu fait une chose qui me dépasse totalement. Et j'en suis participant. Dieu m'appelle à être béni, mais beaucoup plus que ça. Il m'appelle à être une source de bénédiction. Bénis-moi, Seigneur. Ou même quand vous priez pour les autres, Seigneur, bénis-le, bénis-la. Le Seigneur dit, oui, mais je vais faire encore plus que ça. Je vais la relever, je vais la bénir afin qu'elle soit source de bénédiction. C'est ce que Dieu fait. C'est dans sa nature et c'est ce qu'il est. C'est dans sa bonté, Dieu désire vous bénir, mais il va encore plus loin. Son plan pour vos vies, c'est de faire de vous une source de bénédiction. C'est dans sa nature. Exode 34, 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Donc, on a cette tension aussi qui est expliquée, dont on voit le dénouement à la croix. Dieu qui sauve tout en demeurant juste. Miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui se plaît à bénir et à faire de son Église une source de bénédiction. Et la bénédiction d'Abraham a trouvé son accomplissement, comme je viens de dire, en Jésus-Christ, Galates 3, 13, 14. Béni pour bénir. Laissez-moi vous parler à travers le psaume 67 de la vision de Dieu. La vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vise? Qu'est-ce que Dieu vise pour les 10 prochaines années? Les 100 prochaines années? Les 1 million de prochaines années? Qu'est-ce que Dieu vise? Qu'est-ce que son énoncé de vision? Ben, en passant, ça n'a pas changé. C'est la même que depuis toute éternité. OK? Donc, Dieu ne s'assoit pas chaque année pour revoir sa vision puis établir une nouvelle mission pour réajuster le tir. Il a la même vision et il a les moyens pour amener à terme sa vision. Il a les moyens pour amener à terme sa vision. Elle ne change pas, c'est la même. À travers le psaume 67, on voit que Dieu vise à être connu, à être loué, à être source de joie et à être craint. Donc, c'est quatre choses qu'on trouve dans le psaume 67. On découvre qu'est-ce que Dieu vise et comment Dieu nous entraîne dans une mission qui va dans ce même sens-là. Quand on parle de glorifier Dieu, on parle de le faire connaître, d'amener à être loué, de faire découvrir comment il est seule source de joie, une joie complète, une joie parfaite, et comment il est digne d'être craint, d'être révéré, d'être admiré. Et à travers son peuple, comme il l'a fait à travers Israël. Et aujourd'hui, à travers l'Église, il fait connaître à toutes les nations comment il est glorieux. Alors, cette bénédiction dont est le sujet va s'étendre, va être étendue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est de ce dont le psaume parle. Étendre la bénédiction dont l'Église jouit jusqu'aux extrémités de la terre. Le salut annoncé comme la porte d'entrée, il n'y en a qu'une, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous proclamons Jésus-Christ. Si vous nous entendez ce matin sur Internet, vous êtes curieux ou vous êtes venu écouter ce qui se passe dans les églises évangéliques en 2024 au Québec, sachez une chose, c'est que Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit au Père et qui est le seul chemin qui permet d'être réconcilié au Père dont on vient de décrire ici dans le livre d'Exode. Il n'y a aucune religion, aucune philosophie, pas même les dénominations chrétiennes. Jésus-Christ, seul, en chair en os, qui en passant est assis auprès du Père comme homme, étant ressuscité. Alors, c'est le message qu'on a pour vous, comme Église. Et comme Église, on est comme une ambassade. On est comme une ambassade qui envoie des délégations de diplomates jusqu'aux confins du monde. Alors, c'est notre mission. On envoie des délégations lancer cette invitation, « Venez vous réfugier chez nous, votre patrie est en voie de destruction. Votre gouvernement vous conduit tout droit à la destruction. » Et là, je ne parle pas du gouvernement politique, quoique on pourrait en parler longtemps. L'esprit du mal règne sur ce monde, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il se sert de son Église pour aller rejoindre et faire connaître combien il est grand, combien il est glorieux, comment il est digne de louange. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, Ésaïe 11, 9. La terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est notre mission, c'est notre raison d'être. À ce temps-ci, la grande histoire de la rédemption, c'est notre raison d'être, comme croyants, comme Église. Paul va dire ceci dans Romains 15, versets 8 à 12. « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. » Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il règne. Et un jour, ça sera terriblement évident pour certains, mais un jour de fête pour d'autres, quand ça va être pleinement manifesté. Les nations espéreront en lui. C'est notre raison d'être, c'est notre mission. Et j'ouvre une parenthèse pour ceux qui connaissent l'organisme Joshua Project, qui recense et qui tient des statistiques à jour sur l'avancement de la mission de l'Église et le nombre de peuples qui sont peu ou très peu ou presque pas rejoints. Parce que Joshua Project nous indique que 1% de tous les efforts missionnaires de l'Église sont pour ces nations les moins rejointes. Vous connaissez la fameuse fenêtre 1040? Alors, donc, il y a environ 7 000 peuples qui sont considérés comme étant pas rejoints par l'Évangile pour toutes sortes de raisons. Vous pouvez aller sur l'Internet, Joshua Project, il vous donne tous ces peuples qui sont peu ou pas rejoints. Et en même temps, c'est une façon d'être concerné par le fardeau que Dieu a sur son cœur. de pousser son Église jusqu'aux confins du monde pour proclamer cette bonne nouvelle. 3 milliards, équivalent de 3 milliards de personnes dans le monde. Les peuples te louent, Dieu. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. C'est comme si David parle de la bénédiction qu'il concerne personnellement, directement, mais rapidement se tourne vers cette vision que Dieu a, de se faire connaître son nom à toute nation, tout peuple, toute langue. Il revient à la fin vers la bénédiction qu'il concerne, encore une fois, mais rapidement, son regard se tourne à nouveau vers les extrémités de la terre, afin qu'eux aussi, à leur tour, craignent le Seigneur, qu'ils puissent le connaître, qu'ils puissent connaître cette délivrance, avoir cette espérance. Vous savez, une des idoles la plus présente en Occident aujourd'hui, on peut dire, bon, on pourrait nommer un paquet de choses, mais le confort, je vois le confort comme étant une idole. Et je réfléchissais à ça ce matin, et je me disais, vous savez quoi? Pourquoi le confort? Pourquoi on est si attaché à notre confort? C'est qu'on croit avoir trouvé un trésor. La parole nous dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Maintenant, notre prière devant Dieu, parce qu'on travaille souvent au niveau des symptômes, hein? Mais Dieu travaille, lui, au niveau des racines. Et notre prière, c'est qu'il nous fasse voir, pourquoi est-ce que j'ai un trésor dans mon confort? Pourquoi est-ce que j'ai un trésor qui me semble si précieux dans ma petite vie? Et lui nous ouvre les yeux. Et quand, tantôt, au début, quand je lui demandais de faire tomber le mensonge, c'est qu'il est le seul qui puisse travailler au niveau de la racine puis amener une complète délivrance. Pourquoi est-ce que David, vers la fin du psaume, vient nous parler des fruits de la terre? Je vais vous proposer quelque chose. Dans le contexte de psaume 67, où on dit que David, d'une façon prophétique, voit plus loin que son cercle restreint, que sa petite vie. Le fait qu'il soit mention de l'abondance des récoltes à cet endroit, dans ce psaume, est-ce que David ne serait pas encore en train de voir plus loin que sa richesse personnelle? Plus loin que de jouir dans l'immédiat d'une bénédiction de Dieu pour lui-même. Dans ce contexte du psaume 67, moi je propose et je suggère qu'il y a une corrélation avec les nations vers lesquelles doit s'étendre notre bénédiction, en passant par notre voisin, notre prochain, vers notre quartier, vers les partenariats avec les différentes églises, les différentes initiatives missionnaires. Il y a une corrélation entre ce verset 7 qui dit que la terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Et tout de suite, il continue au verset 8, Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. L'Église n'a jamais connu une aussi grande abondance. Et le Seigneur nous enseigne une chose, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Hein, on y croit, mais en même temps, on dirait que on est parti dans l'autre direction. Rappelez-vous que le Seigneur a des ressources infinies à sa disposition. Arrêtons d'agir comme des orphelins. Rappelons-nous à qui on appartient et quelles ressources sont à la disposition de notre Dieu, de notre Père, qui nous envoie comme Église, qui nous appelle à lui faire confiance, à découvrir la richesse de donner et de voir notre bénédiction s'étendre aux autres jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça me fait penser à Jésus qui nous a appris à prier, qui a appris à ses disciples à prier, qui vers la fin va dire, « Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour. » Et au tout début, hein, la prière commence en disant, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Alors, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien afin que je me donne tout entier à chercher d'abord ton royaume. Afin que je me donne tout entier à chercher à ce que ton règne vienne dans ma vie. Donne-moi mon pain quotidien, comme dans le psaume 73, je crois. Que j'en ai pas trop, mais que j'en manque pas non plus, afin que je puisse te servir librement. Ça fait penser au chant qui dit « Ma vie t'appartient. » Ma vie est comme un flambeau. On parlait dernièrement que l'Église est comme une ville sur une montagne, sur une colline qui éclaire les nations. Attention au statu quo et attention à ne pas idolâtrer le confort. Acte 20, 24. Je vais bientôt terminer. Et en passant, si on peut avoir un dernier chant vers la fin, et après le chant, je vous demanderai de rester assis. J'aurai un petit mot à vous dire hors ligne. Une fois qu'on aura dit au revoir à nos amis sur Internet, nos amis virtuels. Non, ils sont bien réels, c'est juste que... En passant, vous êtes toujours les bienvenus dimanche, 10h30, à 18e avenue à Fabreville. Acte 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors oui, Paul était apôtre, oui, Paul avait un appel particulier, un appel unique, mais c'est le mandat de l'Église. Et si on se réunit, si on s'assemble autour de la parole de Dieu, c'est parce qu'on croit que l'Esprit-Saint nous nourrit, puis il nous rappelle la joie qu'on a en lui. Parce que, vous savez, en début du psaume, on voyait que Dieu fait luire sa face sur nous. On a toute sa faveur. Maintenant, est-ce que je marche en fonction de ce fait? Est-ce qu'il y a des choses, peut-être, dans ma vie qui voilent le fait que Dieu fait luire son visage sur moi? Débarrassons-nous de ces choses-là. Afin qu'on puisse vraiment... marcher en fonction du fait que son visage luit sur nous. On a toute sa faveur. Une vie comblée est une vie entièrement soumise à Jésus. Oubliez tout ce que le monde vous dit. Oubliez tout le reste. Une vie comblée, c'est une vie entièrement soumise au Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que doit être notre orientation comme Église? L'orientation qu'on va prendre comme Église face au psaume 67. Comment est-ce que je me place? Quelle va être ma posture? Quelle va être notre posture comme Église? Et vous avez remarqué, je reviens souvent, on dirait que je suis porté de moins en moins à parler de moi, de vous, mais de nous comme Église. On forme une communauté. Je réalisais ça dernièrement. Et ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'on va être une église qui prend soin de ses membres ou une église missionnaire? Voyez-vous une contradiction entre les deux? Non, il n'y en a pas. Pourtant, des fois, on a l'impression qu'on doit prendre une certaine direction ou bien on doit prendre une autre direction entre ces deux options, ces deux choix, prendre soin des gens de l'église ou être une église qui sort, qui va prendre soin des gens de l'extérieur, qui cherche à proclamer la bonne nouvelle, à implanter de nouvelles églises, à envoyer des missionnaires. Est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux? Non. Et je vous suggère une autre chose, c'est qu'il y a même un effet thérapeutique dans le fait de sortir. Vous allez trouver la guérison en embrassant la mission que le Seigneur nous a confiée. Confier. Je m'adresse à ceux qui ne se sentent pas capables. Bon, à certains moments, on se sent tous incapables. C'est une bonne nouvelle, ça nous garde humbles. Mais certains qui traversent en ce moment des temps plus difficiles, que ce soit au niveau santé, financier, moral, dépression. Et puis, je ne veux pas... Il y a des réels problèmes qui doivent être adressés par des experts. Mais il y a quand même, on a quand même cette tendance à vouloir se retourner sur nous-mêmes jusqu'à temps qu'on ait toutes les conditions gagnantes pour marcher avec Dieu. Et ça, c'est un mensonge. Il y a réellement un effet thérapeutique à marcher avec toute la pauvreté que je sens en moi, tout le pas de moyens que je sens en moi. Il y a un effet thérapeutique à répondre à l'appel de Dieu parce qu'on n'est pas seul, on est ensemble. On n'est pas en train d'épater la galerie avec nos dons, avec nos talents, avec nos capacités. Non, on est une famille et on se tient, on se soutient les uns les autres. Et on va trouver la guérison en embrassant cette mission de l'Église. Alors, c'est un psaume à prier si les musiciens peuvent s'approcher. Il y a réellement une leçon à tirer de ce psaume 67. Et c'est réellement un psaume qui va réorienter notre vie de prière. J'en suis convaincu. Donc, c'est à lire, c'est à prier, afin que notre bénédiction, que la connaissance qu'on a de la grâce de Dieu s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Et le mois de prière et toutes les initiatives de prière, donc on a ces moments ou ces rendez-vous, et on a aussi la routine, que je peux, en guillemets, de prière. Je vous invite à redécouvrir un certain aspect de la prière qui est de chercher la face de Dieu. Donc, on va rendre grâce au Seigneur, on va faire des supplications, on va lui faire connaître nos besoins. Mais rappelons-nous que la prière, c'est aussi un lieu où on cherche la face de Dieu. Où on cherche une direction pour nos vies. Pas simplement pour un projet particulier ou pour une... Non, dans la folie de nos vies, dans le rythme effréné de nos vies, on veut s'arrêter puis continuellement lui déposer à ses pieds notre horaire, notre budget, notre agenda. Cherchons ensemble la face de Dieu. Il est fidèle pour se révéler à nous. Il est fidèle pour nous donner une direction. Il est fidèle pour nous découvrir cette dimension d'une Église qui prie. J'ai un livre ici qui va être mon livre pour février. Si je vous en parle, c'est juste si jamais vous cherchez quelque chose à lire. A Praying Church, qui n'est pas disponible en français. Malheureusement, il est sorti l'année dernière. Tu l'as acheté? Non, OK. Ah, ce n'est pas l'anglais. Malheureusement, il a été édité l'année dernière. A Praying Church, Becoming a People of Hope in a Discouraging World, de Paul Miller. Et avec un, comment on dit ça, quand une personne écrit la préface par l'auteur de Doux et humble de cœur, hein? Donc l'auteur du livre. Ouais, Dane Orton qui a écrit la préface, A Praying Church. Je lance ça comme ça. Alors Seigneur, on est devant toi ce matin, réunis. Merci de parler à nos cœurs, merci de te faire connaître. Et d'étendre cette bénédiction au quartier, à la francophonie, jusqu'aux extrémités du monde, Seigneur. Fait que toute nation, tout peuple, toute langue, venir à te connaître, à te louer, à trouver source de joie en toi et à te craindre, Seigneur. Fait que merci, mon Dieu. On est tellement reconnaissants. Merci, mon Dieu. Amen.